France Inter.
Bonjour à toutes et à tous. On n'a pas dit au restaurateur que son plat était franchement mauvais. On n'a pas dit non plus à ce supérieur tout ce que l'on pensait de son management toxique, ni avoué à sa famille toutes les contrariétés engrangées pendant des années. On ne dit pas, on n'ose pas, on retient nos mots jusqu'au moment où ça craque, où un flot de phrases plus ou moins désagréables se déverse. On craque, oui, et ça fait du bien, on s'autorise enfin à parler. Mais quelles sont les conséquences de tout cela et comment expliquer ces craquages? Et vous, surtout, à quoi ressemblent vos craquages? Vous nous racontez au 01 45 24 7000. Vous pouvez aussi nous laisser une note vocale sur l'application de France Inter ou un message sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes le mardi 4 mars, vous écoutez France Inter, bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Eva Rock.
Alors écoute bien, tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre. Pendant 30 ans, vous êtes torché, nourri, couché, levé, consolé. Alors maintenant, je prends ma retraite.
Quand Maria Pacom craque dans le film de Colin Serrault, la crise, c'est assez jubilatoire. Oui, c'est jubilatoire de dire ces quatre vérités en famille, entre amis ou au boulot. Et pourtant, on n'ose pas. Hein. Dire ou ne pas dire, c'est une des questions qui rythme le seul en scène de Marion Mésadorian. Bonjour Marion.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est votre spectacle intitulé Craquage qui nous a donné envie de faire cette émission. Vous jouez les jeudis, vendredis et samedis à 19h au studio des Champs-Élysées avant de partir dans une tournée gigantesque. On est d'accord?
C'est ça, oui.
Et autant vous le dire tout de suite, et ben moi, j'ai craqué et sur votre spectacle et sur vous, évidemment. On va en reparler tout au long de cette émission. Bonjour Laurent Béguet-Chankland.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Grenoble dans les locaux d'ICI Isère. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'Université de Grenoble-Alpes, membre de l'Institut universitaire de France et directeur de la Maison des sciences humaines Alpes. Parmi vos ouvrages, je citerai Psychologie du bien et du mal, c'est aux éditions Odile Jacob. Petite question personnelle, Laurent Béguet-Chankland. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez craqué, où vous avez dit ces quatre vérités à votre interlocuteur ? Ou interlocutrice?
Écoutez, je vais vous faire une confidence. C'était ma belle-mère, mais j'en parlerai pas.
Mais c'est vrai, vous avez vidé votre sac?
Très sincèrement, c'était il y a un mois et ça a fait mal.
Ah, ça a fait mal. On va reparler des craquages qui font mal ou ceux qui sont un peu salvateurs. Et vous, cher Sébastien Boller, est-ce que vous avez craqué récemment?
Pas récemment, non. J'ai craqué beaucoup il y a longtemps quand je jouais beaucoup au tennis et que c'est un sport qui demande de se contrôler beaucoup et qu'il y a des moments
voilà, ça, c'est
on se lâche
et
ça pose beaucoup de questions sur les mécanismes de régulation des émotions, ce qu'il faut faire ou pas.
Je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences et rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Vous venez régulièrement dans cette émission. Dans quelques minutes avec vous, on va ouvrir le dernier numéro de votre revue. Il sera question notamment de faire les bons choix dans notre vie et ça a un petit rapport aussi quand même avec tous ces craquages. Et avec nous également ce matin, les amis Éric Libio et Marie-Laure Sunshine. Bonjour, Marie-Laure, rédactrice en chef adjointe de Femmes Actuelles. Bonjour à tous les deux. Bonjour Éric.
Bonjour Eva.
Un petit craquage aussi pour vous récemment ou pas, Marie-Laure?
Ah bah, l'ordinateur qui plante, voyons, avec tous les dossiers dedans.
Ouais, mais ça c'est une petite colère, c'est pas contre
c'est pas
quelqu'un.
Mal, je vous assure, moi ça.
Ah oui, ça vous a fait du bien.
Ah oui, ça fait du bien. Ouais.
Et vous, Éric?
Non, pas trop finalement.
Ouais.
Je me rends compte que peut-être qu'un jour ça va tout.
Ça me fait peur.
Ça va être terrifiant. Des chutes du Niagara un jour, mais pas trop comme ça, non.
On va essayer d'anticiper ce moment-là. Marion Mésadorian, vous incarnez 16 personnages sur scène qui craquent, dont cette femme.
On peut plus, je te dis. Je tombe toujours sur des mecs qui disent j'aimerais bien apprendre à te connaître et ils me donnent rendez-vous à 22h30. Moi maintenant, j'aimerais bien qu'on apprenne à me connaître, mais à 18h. Parce qu'il fait jour à 18h, hein. On se regarde dans les yeux à 18h, on est obligé de se parler à 18h, hein. On boit pas 5 shots de tequila avec un œil qui démerde à l'autre, tu vois ce que je veux dire, tu vois pas ce que je veux dire, ouais, tu vois ce que je veux dire. Et au boulot, là, c'est pareil. Attends, ma boîte, ils me demandent de valider des crédits à des gens dont on est sûr qu'ils pourront jamais rembourser. Comme ça, après, on revend tous les crédits à une autre boîte, tu sais, qui, elle, travaille avec les huissiers qui débarquent chez les gens. Toi, par exemple, t'en penses quoi? Éthiquement, c'est pas ouf, ouf, non? Je sais pas, je me dis, t'arrives en soirée, tu fais quoi dans la vie? Moi, ben, je ruine les gens, comme j'ai ruiné ta vie. Tu vois, ben, ça marche pas, en fait. J'aimerais bien démissionner, mais moi aussi, j'ai le crédit de l'appart. Franchement, j'ai l'impression que tout le monde a une vie de ouf, sauf moi, quoi. Le soir, je me couche, j'ouvre Insta, j'ai envie de me pendre. Je vois toutes mes copines, elles ont des combats, des idées, des soirées, des voyages, des culs de ouf, quoi. Il y en a, elles ont eu 3 enfants, elles ont des culs de ouf. Je sais pas quelle version d'iPhone elles ont, mais... Moi, même de dos dans le noir avec 3 filtres, je la poste pas la mienne, tu vois.
Marion Mésadorian, il y a un peu de vous dans ce personnage ou pas?
Oh, que oui.
C'est vrai? Dans tous les personnages que vous jouez, il y a quelque chose de,
oui,
de
oui,
votre
oui.
personnalité?
J'incarne des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, j'incarne tout le monde, tous les gens que je vois, que je fréquente, qui partagent mon chemin ou qui croisent ma route. Et en fait, il y a de moi dans chacun d'eux, puisqu'ils me touchent, ils me font rire, je comprends leur solitude, leur tristesse, leur moment de où ça, il y a le climax où ça ouais. explose. Je les comprends et j'aime les incarner pour voir si vous, ça vous fait la même chose que moi quand je les vois.
Ouais. Il faudrait remercier votre maman parce que c'est grâce à elle en fait que le spectacle existe.
Oui, alors c'est-à-dire que je suis issue d'une famille où on parle peu déjà. Hein. Ouais. Le non-dit c'est un sport dans la famille. Et puis c'est vrai que quand j'ai accouché de mon premier fils il y a 2 ans, j'ai effectivement eu une petite engueulade avec ma mère, un bon craquage et le mot m'est apparu. Je cherchais la thématique de mon nouveau seul en scène.
Le mot craquage est apparu.
Je me suis vue lui hurler dessus au téléphone dans la rue. Mais j'ai jamais fait ça, enfin, on se respecte dans cette famille, normalement, il y a un peu de dignité, surtout pour les anciens, normalement.
Et d'un
là,
coup...
Là, ça a vrillé, ouais. quoi. Et en fait, je me suis dit, allez, craquage, j'avais envie d'un truc où on se défoule, et puis dans l'écriture, je me suis vite retrouvée face au premier défi, c'est on ne va pas hurler pendant 1h15, qu'est-ce que c'est que le craquage?
On va revenir sur les modalités du craquage, en quelque sorte. La discussion que vous avez eue ce jour-là avec votre maman, vous diriez qu'elle a été salvatrice?
Oui, ouais. En tout cas pour moi.
Ouais. Et pour votre maman?
Je ne sais pas.
Ça a été plutôt dur, vous pensez? Vous n'en avez jamais reparlé après?
On en reparle, mais c'est vrai qu'elle elle a eu un peu plus de mal à comprendre ma réaction. Mais c'est vrai que moi, c'était un trop-plein. Effectivement, le but du craquage, ce n'est pas non plus d'harceler l'autre ou de l'agresser. Mais en fait, c'est qu'on ne se contrôle plus à un moment et ça sort. C'est le non-dit, c'est une accumulation.
Ouais.
Et effectivement, après, le but, c'est de ne pas laisser l'autre et soi-même dans cet état et de recréer un lien. Donc non, on a tout de suite recréé ce lien. Il n'y a aucun problème.
On va essayer de comprendre pourquoi on a tant de mal à parler, à dire les choses et à accumuler ces non-dits. Laurent Beck-Shankland, le contexte du craquage, il est déterminant en fait pour comprendre ce qui se passe.
Bien sûr, il y a souvent des circonstances qui vont faire qu'on va relâcher le contrôle, comme ça a été dit à l'instant, c'est-à-dire qu'on va être, par exemple, submergé par quelque chose qui nous gagne, une émotion qui peut être favorisée par, finalement, des éléments de contexte qui vont, par exemple, augmenter une frustration. Donc, on a des éléments de contexte qui peuvent être très, très, je dirais, non sociaux, comme, par exemple, lorsqu'il fait plus chaud, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on a des préoccupations, je dirais, professionnelles ou autres, ça augmente, effectivement, la pression et la facilité que nous avons ordinairement à contenir finalement ces paroles, eh bien, elle va être dissoute par cette situation. Donc oui, des éléments de contexte. Et puis après, bien sûr, un événement déclencheur qui va évidemment identifier une cible. Et là, les choses peuvent mal se passer.
Oui, vous qui avez beaucoup travaillé sur la notion de violence au sein de la société, est-ce que ne pas tout dire, finalement, c'est un peu aussi la garantie de nos liens sociaux? C'est-à-dire que de la même façon que Norbert Elias parlait de violence maîtrisée, au fond, c'est parfois pas mal de pas trop craquer.
Oui, mais l'hypocrisie, c'est l'essence de la civilité, c'est-à-dire qu'on va essayer de maintenir des relations harmonieuses lorsque c'est possible. Le problème, c'est que parfois, on ne peut pas s'y tenir et qu'à long terme, eh bien, jouer la carte de l'authenticité, c'est plus payant que de ne pas la jouer. Donc effectivement, dans certains cas, ces pertes de contrôle peuvent avoir des effets bénéfiques. Mais
c'est
tout dépend évidemment comment elles sont gérées, parce que bien sûr, ça peut aussi détruire. Et tout dépend si justement la relation ou la personne en face de nous prend les coups.
Oui, c'est ce que vous venez de dire, Marion Mésadorian, il faut recréer le lien après, tout de suite après ce craquage. Il y a de la colère, selon vous, dans tous ces mots qui sortent d'un coup, Marion Mésadorian, c'est-à-dire que, ou c'est plutôt une libération et la fin d'une frustration, Laurent Beck-Shankland prononçait ce mot de frustration, j'ai l'impression qu'il est quand même au cœur de tout ça.
Pour moi.
Oui, pour vous.
Est-ce que c'est de la colère?
Dans vos personnages, vous trouvez qu'il y a de la colère? Ou au contraire, c'est plutôt libératoire finalement?
C'est libératoire, mais du coup, moi, je décline la façon de craquer de plein de manières différentes, de plein d'humeurs différentes. Et justement, il n'y a pas que le cri, le hurlement, mais ça part d'un ras-le-bol où en fait, on traîne des casseroles qu'on n'aurait pas dû traîner autant de temps. Et il faut dire les choses à la personne concernée, parce que souvent, ceux qui s'en prennent plein la tronche, c'est souvent celui qui n'était pas dans l'histoire. Donc, en fait, l'idée, c'est quand même de parler à la personne concernée pour recréer le lien, en fait.
Ouais.
Parce que souvent, j'entendais, oui, mais en entreprise, quand on ne supporte pas son N plus 1 ou machin, ou je ne sais pas quoi. Oui, d'accord, mais il y a ne pas supporter, il y a aussi la façon dont on a été peut-être irrespectueux envers nous, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, et bien il faut apprendre à le dire sans hurler. Ça va être notre défi de toute notre vie.
On est bien d'accord. Laurent Beck-Shankland.
Oui, c'est ça. Je pense que le concept important, en tout cas pour les psychologues ici, ça va être souvent la colère. C'est-à-dire, finalement, et je renvoie un peu aux travaux de Carol Tavris, qui est chercheuse en Californie sur ces sujets, qui a bien montré effectivement ce qui se passe lorsqu'on est en colère, à la fois, je dirais, le substrat physiologique et puis évidemment la tendance à l'action, la tendance à l'attaque. Hein. Effectivement, la colère, c'est une émotion qui a une signification en termes d'évolution. Hein. On veut faire changer une situation, on cherche à modifier un état que l'on considère comme étant injuste, injustifié. Et donc la colère, tout l'enjeu, ça va être d'arriver, je dirais, à la canaliser, à la gérer, peut-être à la regarder. C'est-à-dire, une façon intéressante, c'est de se dire, tiens, j'éprouve quelque chose, je suis curieux par rapport à cette émotion qui me submerge, ou bien, effectivement, attention, parce qu'évidemment, la colère, ça va infecter aussi le traitement de l'information, c'est-à-dire qu'on va avoir une distorsion, on cherche à régler un problème très vite. Et donc, il y a évidemment des risques très importants qui sont liés à l'émotion de la colère qu'on va essayer de clarifier.
Je précise, Marion Mézadorian, qu'on rit beaucoup dans la salle, mais le soir où je suis venue, moi j'ai fini en larmes. C'est un petit teasing pour la suite de l'émission où on va parler aussi notamment de vos origines, parce que ça a une part importante dans votre spectacle. Éric Libio, vous, on vous retrouve à 10h40. Pardon, je vous ai réveillé.
J'écoutais avec très grande attention.
C'était pour vous embêter. Non, je cherche à vous faire craquer. Quel est le sujet de votre chronique ce matin?
Eh bien écoutez, on sort d'un week-end, on a eu les Oscars, on a eu les Césars, donc tout le monde est rentré avec un trophée entre la main, mais qu'est-ce qu'on fait de cet objet parfois encombrant et parfois plus ou moins moche?
On vous retrouve vers 10h40.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Vol ! Comment vous sentez-vous ? Bien, t'attaques ? Allez, on y va, allez hop ! Et maintenant, je vous dis tout !
Non !
La ferme ! Vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace et on vient de vous retrouver intact il y a deux mois !
Hubert !
La ferme ! Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme, et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé.
C'est vrai que lui, il craque souvent. Louis de Funès, dans le film Hibernatus, nous évoquons depuis 10 heures ces moments où la parole se libère, où on dit à l'autre tout ce que l'on pense. La comédienne Marion Mézadorian en a fait un spectacle formidable, Craquage. Nous en parlons avec elle et avec le professeur de psychologie sociale Laurent Beck-Shankland, mais également avec Stéphane Escher. Avec Sébastien Boller, on va vous donner la parole dans un instant. Sébastien, je voudrais juste vous lire deux messages d'auditrice. Aurélie qui nous dit, après des années de silence, j'ai craqué et j'ai dit à mon beau-père tyrannique que je ne supportais plus sa façon de maltraiter mon mari pendant les repas de famille. Je me suis retrouvée un temps isolée dans ma famille, mais ce craquage a permis à mon mari de sortir de l'emprise de son père. Voilà comme quoi, des fois, ces craquages, il y a un bénéfice au bout du compte. Hein. Et Charlotte nous dit, mardi dernier, mardi dernier, ma N plus 1 est venue encore une fois chercher les problèmes. Et cette fois, ma démission étant remise depuis la semaine précédente, j'ai craqué. Et je lui ai balancé tout le mal que je pensais d'elle. Et elle nous précise, j'ai adoré être odieuse avec cette personne si nulle. Vous en avez vous avez un personnage qui part à la retraite, Marion, et qui vraiment, le jour de son pot de départ, elle craque et elle dit tout, quoi.
Ah bah, 42 ans dans la même boîte, là. C'était censé être une fête, ce soir-là. Et en fait, au moment des remerciements, oui, ça peut être comme les fameux discours de mariage. Là, c'est vrai qu'elle y va tranquillement. Et puis, en fait, tout doucement, on voit que ça glisse. Et on ne sait pas jusqu'où elle va aller, en fait.
Et elle ne crie pas, en l'occurrence. C'est ce que vous disiez, il y a des modalités dans le craquage. C'est-à-dire qu'on peut crier, mais elle dit simplement les choses.
Elle dit simplement les choses. Alors, à la fin, elle envoie un gros cri de faim. Mais c'est vrai, sous le ton du rire, comme ça, ça sort, donc la salle est entre rire nerveux et « Non, c'est pas vrai !» Donc souvent, à la sortie, j'entends le public « Je rêverais de dire ça, je rêverais de dire ça !»
Vous êtes notre comment dire,
l'exutoire
à travers
tout
ce qu'on aimerait
vous,
en fait
vivez par
dire
procuration.
Aussi, voilà. Vous avez une mère de famille aussi qui dit, ça ouvre le spectacle, hein, qui n'en peut plus de ses deux enfants et de son mari, et qui dit j'ai envie de les empailler, hein, c'est les mots qu'elle utilise. Et je me suis demandé, parce que derrière ces craquages, on se demande s'il n'y a pas une autre question qui est celle des choix qu'on fait dans nos vies. Parce que cette mère de famille, peut-être que ce n'était pas la vie qu'elle a envie d'avoir, qu'elle voulait faire autre chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a ça aussi?
Oh bah, c'est sûr que oui, si on se donne par obligation le poids de la société, c'est ce fameux truc qu'on se demande. Hein. Typiquement, quand on est enfant, selon comment les parents nous poussent à faire certaines études. Moi, j'ai des amis dans l'enfance qui étaient obligés d'être ingénieurs parce que les parents étaient ingénieurs. C'est le fameux cliché de...
Bien sûr.
Et donc, du coup, on se retrouve des fois à 25, 30, 40, 50, disant « Mais pourquoi j'ai fait ça? Moi, je déteste cette village !» Donc, effectivement, tout d'un coup devient un rejet. Mais en fait, non, il faut revoir certains piliers et pas tout envoyer bouler.
On est bien d'accord. Sébastien Boller, comment faire les bons choix? C'est le sujet principal du dernier numéro de Cerveau et Psycho. On y apprend notamment que les choix que nous faisons naissent dans une région précise de notre cerveau. Cortex orbitofrontal, expliquez-nous cela.
Alors, le cortex orbitofrontal, c'est une partie de notre cerveau qui se situe tout à l'avant du cerveau, hein, tout près du front, c'est au-dessus des yeux. Effectivement, c'est une partie de notre cerveau qui a été très étudiée depuis les travaux d'un neuroscientifique américain qui s'appelait Antonio Damasio, qui avait étudié le cas d'un ouvrier des chemins de fer britannique qui s'appelait Phineas Gage, et qui avait eu cette partie du cerveau détruite par une baramine qui avait perforé sa boîte crânienne. Et c'était très étonnant parce que cette personne avait survécu, elle était entièrement normale, sauf qu'elle prenait des choix complètement aberrants par rapport à sa vie, par rapport à sa famille, et qu'elle semblait incapable, en fait, de bien peser le pour et le contre des différentes informations professionnelles, émotionnelles, familiales. Et on s'est aperçu, grâce aux travaux plus récents, que cette partie du cerveau, effectivement, collecte toutes les informations sensorielles, auditives, émotionnelles, tactiles, enfin, de façon extrêmement fine, et au bout d'un moment, associe ça à des ressentis corporels pour livrer un choix qui va correspondre le mieux possible à la fois à notre raisonnement et à nos émotions. C'est un intégrateur de perceptions corporelles, émotionnelles et intellectuelles. Et tout ça va converger vers cette partie du cerveau qui, quand on lui laisse la possibilité de le faire avec des temps d'incubation avant de prendre les bons choix, va livrer des choix souvent optimaux à condition de bien justement marier l'émotionnel et le rationnel. Voilà.
Avec une part inconsciente et consciente aussi dans nos choix.
Exactement. Alors ça, c'est des travaux d'un groupe de recherche à l'université d'Amsterdam qui ont pu montrer depuis ces dernières années que si vous avez des choix importants à faire et des choix qui font intervenir beaucoup de paramètres différents. Par exemple, vous allez devoir chercher la maison de vos rêves ou louer un appartement dans un endroit au centre-ville, là où vous allez trouver un emploi, et vous allez devoir prendre en compte le temps de trajet pour aller au travail, l'exposition de l'appartement, les charges, le loyer, la double exposition, le nombre de pièces, et ça fait une combinatoire en fait de facteurs qui devient impossible à gérer par notre conscience, parce que la conscience peut manipuler quelques données avec un rythme de la pensée qui va de seconde en seconde comme ça, qui peut pas en fait intégrer autant de facteurs. Et par contre, quand on fait des expériences où on dit aux gens de s'imprégner des différents dossiers d'appartement et ensuite de prendre un certain nombre de minutes ou voire de dizaines de minutes pour faire autre chose, se distraire, ou faire une sieste, n'importe
penser
quoi.
Penser à autre chose, en fait.
Penser
hein.
à autre chose, on se rend compte que cette partie du cerveau continue à mouliner les informations sans qu'on y fasse attention. Et plus on lui laisse du temps, tout en orientant l'attention consciente de la personne vers autre chose, un jeu vidéo, n'importe quoi, plus le résultat est bon à l'arrivée.
Ouais.
Donc ça montre qu'il y a vraiment un traitement inconscient hyper efficace qui se fait dans cette partie du cerveau, mais ça ne veut pas dire que c'est au doigt mouillé.
Oui.
Et c'est-à-dire qu'il faut auparavant avoir pris conscience avec une concentration extrême des données du problème et ensuite confier le problème à cette partie du cerveau qui va œuvrer sur un mode inconscient. Donc il faut bosser consciemment, ensuite se prendre un temps d'incubation inconscient et ensuite on prend la décision.
C'est pas comme ça qu'on écrit des spectacles aussi, Marion Mesadorian?
J'allais dire ça, parce que je co-écris, je mets en scène de nombreux autres spectacles en humour, et puis il y a ce temps de digestion qui est très important, où des fois en production on nous pousse un peu parce qu'il y a des dates butoirs, et des fois quand on repousse, j'ai dit dernièrement à un de mes artistes, tu sais quoi, c'est bien qu'on ait eu 2 mois de plus, parce que ça te permet de digérer et d'être sûr que tu veux défendre ces mots-là, que tu en as vraiment envie, et en fait c'est très très important, parce qu'à la va-vite on peut vite faire des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on a envie.
De l'importance encore des mots, hein, des mots qu'on choisit de dire et, et ceux qu'on retient parfois. Sébastien Boller, est-ce que vous, le spécialiste du cerveau que vous êtes, vous comprenez ce qui se passe dans notre cerveau dans le cadre d'un craquage comme on l'évoque depuis ce matin?
hein.
Alors, le craquage, ça montre vraiment un principe fondamental du fonctionnement cérébral, qui a de nouveau un rapport avec cette partie du cerveau qui est à l'avant, là, le cortex préfrontal, qui est très développé dans l'espèce humaine par rapport à d'autres espèces animales, et dont le rôle en société dans l'espèce humaine, c'est de réprimer nos impulsions en grande partie. Bon, il a d'autres fonctions, mais notamment de dire non, tu ne peux pas maintenant te lever en plein milieu d'une réunion ou te mettre à siffloter parce que tu as un nerf qui te passe dans la tête. En fait, cette partie du cerveau fait qu'on se contrôle.
Oui. Ouais.
Et c'est ça qui a permis à l'être humain de vivre dans des sociétés complexes, parce qu'en société, on passe son temps à s'empêcher de faire ce qu'on veut. On ne s'en rend pas compte parce que c'est très intériorisé, mais ça marche en boucle et ça fonctionne très bien. Alors ça dépend beaucoup du type de société dans lesquelles on vit. Il y a des sociétés où les interdits ou sociaux sont très puissants, où on va s'interdire beaucoup de choses. Typiquement, vous allez au Japon, vous voyez, ça marche beaucoup comme ça. Et puis d'autres sociétés à l'occidental, aux États-Unis, où on favorise plutôt, même chez nous, hein, depuis les années 60, la libre expression des désirs. Et finalement, c'est toujours un équilibre entre ce contrôle de soi par la norme sociale et les désirs de l'individu qui fait qu'on va trouver le bon curseur. Mais il y a des situations où l'interdit social peut peser pendant des décennies, et c'est les expériences dont on a parlé là, sur des personnes qui, pendant des phases de temps très très longues, vont contre leurs désirs et leurs oui. aspirations. Et là, ça peut être délétère parce que ça introduit des notions comme la dissonance cognitive. On n'est pas aligné avec soi-même. Ça se traduit par un stress chronique. On sait qu'il y a des hormones du stress qui sont libérées en boucle à ce moment-là. Et par des situations de souffrance, de dépression, d'anxiété. Et il y a un moment, la soupape saute.
Oui, c'est la cocotte minute.
Et quand on attend trop longtemps, alors il y a un effet de soulagement, mais on ne maîtrise pas les effets. Mmh. Et donc, ce qui est plutôt recommandé, c'est plutôt de faire des minimises au point tout au fil de la vie plutôt que d'attendre que le trop-plein déborde.
Marie-Laure ?
Oui, mais j'allais vraiment revenir sur ce point, Sébastien Boller, c'est-à-dire en quoi est-ce, ou pas d'ailleurs, délétère pour l'organisme ? Parce que vous l'avez dit, quand on garde pour soi le ressentiment, on se fait un nœud à l'estomac, on monte le taux de cortisol, on est stressé, on est anxieux, mais inversement, on peut aussi, suite à un craquage qui n'a pas forcément été maîtrisé, qui nous échappe, mmh. Subir aussi une forme d'anxiété, avoir des remords, une forme de culpabilité. On n'est pas forcément très bien non plus dans son corps, dans son esprit, dans son mental, une fois qu'on a craqué.
Non, alors souvent...
D'où l'importance du corps, d'ailleurs, dans ce sujet-là.
Les explosions de colère, il y a eu des études un petit peu qui ont dit différentes choses à différents moments de l'histoire. Il y a une vingtaine d'années, il y avait une vague d'études qui montrait qu'effectivement, se mettre en colère, ça avait tendance à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires parce que ça permettait de faire sauter un trop-plein et d'éviter d'accumuler. Puis plus récemment, on s'est rendu compte que quand même, les explosions de colère, ça avait des effets de stress par rebond, hein, ce que vous venez de dire, et puis des effets délétères sur l'entourage, en fait. En général, c'est pas un bon moyen de mettre les choses au point. Donc c'est plutôt quelque chose qui n'est pas la façon idéale de mettre les choses au point. Il y a d'autres techniques qui ont été comparées d'ailleurs, hein, entre la colère pure ou ce qu'on appelle la suppression émotionnelle, le fait de tout garder pour soi, ou au contraire ce qu'on appelle la réévaluation émotionnelle. C'est-à-dire quand on subit des moments un petit peu de contradiction, plutôt que de les garder pour soi, arriver à les mettre en perspective, les interpréter différemment. Il y a des exercices pour ça qui montrent qu'à ce moment-là, ça permet d'éteindre la partie du cerveau liée au stress et aux explosions de colère qui s'appelle l'amygdale, et finalement d'apaiser tout ça. Donc la réévaluation émotionnelle semble très importante, et la colère est mal acceptée socialement, évidemment.
Et je crois que vous vouliez réagir d'ailleurs sur la colère, Laurent Beck-Shankland.
Oui, simplement, il y a eu un psychologue qui s'appelle Scott Lilienfeld qui a publié un livre consacré justement aux mythes en psychologie. Et l'un de ces mythes, ce serait justement d'exprimer sa colère pour l'évacuer. En réalité, la manifestation, en tout cas non réfrénée de la colère, non seulement ne l'évacue pas, mais a plutôt tendance à l'amplifier, à l'augmenter, à la rendre plus intense. Donc effectivement, alors l'idée n'est pas de réprimer la colère, mais de la traiter comme on essaierait de traiter un partenaire de judo, c'est-à-dire d'arriver à la saisir à un endroit et peut-être à l'apprivoiser pour que précisément elle puisse être métabolisée, comme l'a évoqué Sébastien Boller, c'est-à-dire réévaluer la situation, regarder ce qui se passe, et puis trouver des techniques qui permettent finalement d'abaisser la température, tout simplement par exemple compter jusqu'à 10, ça peut servir.
Ah oui.
Ou bien il y a des activités qui ont été évoquées, voir un film, faire quelque chose de positif pour quelqu'un, même du sport si c'est un peu épuisant, faire l'amour, tout ça, ça peut avoir un effet d'atténuation, je dirais, de ces émotions qui ne sont pas négatives en soi, mais qui bien sûr ont un retentissement subjectif négatif. pour arriver justement à prendre la distance et à voir ensuite comment gérer ça. Après, ça a été dit aussi, je crois que le fait d'avoir craqué, ça réintroduit une pièce dans la machine dans le sens où maintenant il faut traiter la culpabilité d'avoir craqué. Et donc oui. ça peut être un moment intéressant puisque on va finalement se rapprocher entre guillemets de la victime, peut-être présenter des excuses et c'est finalement un moment assez sensible où on peut faire renaître quelque chose qui aurait pu ne pas se produire autrement que par le craquage. Donc je dirais, le craquage, il y a un enjeu au moment où ça se déroule, comment le gérer, comment le traiter de façon intelligente. Mais si on craque, tout n'est pas perdu, puisqu'effectivement, on peut encore après, par des phases de rapprochement, de restauration, de présentation d'excuses, si évidemment on n'a pas été jusqu'à dépasser des limites voilà, qui évidemment par moments sont, je dirais, ensuite irrécupérables, eh bien on peut réparer tout ça.
Sébastien Boller, on remercie votre maman, encore une fois. Marion Mésadorian.
Ça nous ramène aussi à ce qui est dit très souvent par les psychologues, et notamment les psychologues évolutionnistes, sur les émotions en général, sur le rôle des émotions. Et le meilleur parti qu'on peut en tirer, et ça s'applique en particulier à la colère, c'est que les émotions souvent sont un message qui nous est adressé par notre corps et par notre cerveau sur une situation. La colère, ce qui ressort souvent des études sur ce sujet, c'est que c'est un message, en fait, une émotion qui nous signale qu'un de nos objectifs ou un de nos désirs ou une tendance à l'action est contrariée. C'est qu'on se heurte à quelque chose qui bloque nos intentions. Et quand on arrive à interpréter son envie de colère ou sa colère, quand elle s'exprime, comme étant le signe que quelque chose dans notre vie est bloqué, à ce moment-là, on peut s'interroger, ce qu'on fait intervenir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, sur qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qui finalement, chez moi, n'arrive pas à trouver son aboutissement ? Pourquoi est-ce que cette situation m'énerve ? Et là, quand on commence ensuite à dérouler le fil, on se dit, peut-être qu'en fait, là, j'ai fait telle erreur, ou ça fait un certain moment, en fait, que j'ai pris un mauvais chemin. Et quand on commence à prendre l'émotion comme un signal qu'il y a quelque chose qui coince, on peut faire intervenir ensuite une analyse et un nouvel axe d'action, en fait.
Oui, moi, c'est ce que j'ai aussi trouvé intéressant, Marion Mésadorian, dans le spectacle, c'est que vous vous posez vraiment des questions de fond, de savoir d'où vient cette difficulté à parler, à oser dire les choses. Pour vous, quelles sont les hypothèses ? Il y a la peur du jugement de l'autre
Oui, c'est ça. J'ai un peu fouiné, effectivement, en écrivant. En fait, c'est la peur de l'exclusion et du rejet absolu. Je pense que, en tant qu'animaux, je ne sais pas, on a peur d'être isolé, puisque, historiquement, seul, on meurt, quoi. On vit en groupe, en troupe, donc en fait, on doit avoir génétiquement cette peur qui fait que non, il vaut mieux que je dise rien à ma famille, parce que si je suis exclue du clan, je meurs. Ça, c'est doit être dans nos gènes, quoi. Et donc, du coup, dans cette peur-là, qui est encore, même en 2025, présente dans notre société, on peut encore se taire, alors qu'en fait, on peut apprendre, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, à parler, à dire les choses en temps et en heure, pour éviter ce moment de trop-plein. Et puis, on a peur, effectivement, inconsciemment, de cette exclusion du clan. Alors, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on nous explique qu'il y a des nouveaux clans qui se développe, comme par exemple j'ai un ami qui a avoué son homosexualité à sa famille, qui a été rejeté de son clan familial et qui a retrouvé un autre clan amical
via les réseaux,
voilà. Donc on n'est plus seul en train de mourir dans notre coin, et ça fait toujours aussi mal, hein. Il faut retrouver ce lien d'une manière ou d'une autre, ou malheureusement l'arrêter s'il est trop violent, mais en tout cas oui, je pense que c'est cette peur de l'exclusion absolue qui nous empêche de parler inconsciemment.
Laurent Beck-Chankland, vous racontez dans votre livre notamment sur la psychologie du bien et du mal, vous parlez de la douleur du rejet social. C'est aussi ça qui est en jeu dans ces craquages.
C'est ça, Sébastien Boller pourrait en parler aussi, mais il y a des recherches classiques qui ont été faites sur l'exclusion sociale en laboratoire, où par exemple, on amène des personnes à penser qu'elles ont été exclues par une autre personne. Je ne dis pas comment, ça serait un petit peu long à raconter ici, et on produit, je dirais, une émotion d'exclusion sociale, et on constate que dans les moments qui suivent, la personne qui a été rejetée socialement se sent bien sûr très mal, est beaucoup moins motivée, échoue à différents types de tâches cognitives, et des mesures cérébrales montrent qu'effectivement il y a des zones du cerveau qui sont impliquées dans l'expérience de la douleur, qui sont activées. Donc on a quelque chose qui se passe qui évidemment est très lié à une forme de détresse. Donc l'exclusion sociale, c'est évidemment quelque chose qu'on cherche à éviter. Nous sommes des animaux ultra sociaux, et tout ce qui nous signale le risque d'être exclu nous alerte. Je pense qu'effectivement c'est un point très important, et donc au nom de cette peur, on va parfois accepter des choses qui sont assez loin.
Sébastien Boller,
je suis très content que vous signaliez ces études là sur le rejet social, parce que je viens de lire une étude qui vient compléter ce que vous dites, Laurent, sur le fait que quand on a ces sentiments d'exclusion, on observe apparemment, chez les personnes qui se sentent exclues, davantage de comportements de mimétisme et une tendance à adopter exactement les mêmes comportements que les personnes du groupe dont on a été rejeté, dans l'espoir d'y être de nouveau assimilé. Donc ça rejoint ce que disait Marion sur le fait qu'on va effectivement, on va essayer de faire tout comme les autres pour éviter ce rejet.
Ce rejet.
Marion Mézadorian, on va poursuivre l'exploration de tous ces non-dits, de ces mots qu'on a trop longtemps retenus, mais je voulais quand même vous demander, est-ce que ce spectacle vous a changé? Est-ce que vous dites aujourd'hui plus facilement les choses?
Oui, alors c'est vrai que bon, j'ai quand même fait 3 ans avec une psy, hein, j'ai été suivie pendant 3 ans, ça m'a permis aussi de
pendant
de dire
le spectacle
les choses.
Ou avant le spectacle?
Ouais. Avant et sur la fin de l'écriture aussi. Ça me permet d'avoir vraiment une distance avec les choses, et c'est vrai que maintenant, je fais exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je sens que je me sens pas bien, ou il y a quelque chose qui me dérange, je me dis, non, cette situation me met mal, qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce qu'on m'a dit, est-ce qu'on m'a agressé d'une certaine manière, même insidieuse, et que je n'ai pas vu arriver, ok, il faut que je rencontre cette personne et qu'on se parle et qu'on se dise les choses.
Et vous arrivez à le faire,
hein. J'essaie de le faire tout le temps. Parce que je me dis tout le temps, Marion, tu le sais, si tu ne dis pas les choses, demain t'as une grippe.
Ouais.
Dans 3 jours, t'as le dos bloqué. Je me connais par cœur et j'ai déjà la flemme d'être malade.
C'est ce que vous racontez dans le spectacle. Vous dites, il faut comprendre pourquoi les mots ne sortent pas, mais souvent, ils arrivent finalement par sortir à un moment donné quand il y a ce craquage. Et quand ils n'arrivent pas, c'est le corps, en fait,
qui prend le relais.
Hein. Et ça vous est arrivé?
Oh, bah tout le temps.
Le dos bloqué, par exemple.
Moi, je ris avec ça, surtout avec un des personnages qui dit, Marion, dans tous les cas, si tu ne dis pas ce que tu penses en temps ou en heure, tu auras forcément une grippe ou un cancer. Donc, donc la salle fait...
C'est la psychothérapeute qui dit ça, hein, c'est ça?
Non, elle n'est pas psychothérapeute. Il y a un neurologue dans le... Mais effectivement, non, c'est pas elle, c'est une copine qui, elle, a vu des choses sur Instagram, elle a lu des bouquins et tout ça, donc elle fait une espèce de mix de tout. Et donc c'est très drôle parce que moi j'aime bien ces espèces de vérités qui en sont pour certains et d'autres. Non, c'est un peu exagéré, mais quand même ça fourmille un peu et pendant le spectacle.
Ouais.
Donc oui.
Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous disent les spectateurs et spectatrices en sortant de la salle quand ils viennent vous voir?
Des gangs de psys qui viennent, des gangs de gens qui m'attendent en disant nous sommes des bus entiers là, on circule. D'accord? Ok, très bien. Bah, c'est chouette. Non, ils me disent, bah, c'est vrai. Je me rappelle, il y avait un monsieur qui devait avoir 80-85 ans, qui était au premier rang, et à la fin des applauses, à la fin du spectacle, j'entends juste quelque chose, et je le fais redire parce que je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Et il me dit, je disais, c'est tellement vrai.
Mais, ouais. Mais alors, je peux vous dire que j'ai prononcé aussi cette phrase, plus d'une fois, bon, pendant mieux. Le spectacle. Nous allons continuer d'évoquer ces craquages, mais il est 10h40 et il est l'heure de retrouver Eric Libio.
Ne dit-on pas des objets inanimés?
Grand bien vous fasse.
Et la question s'est posée à mon esprit fulgurant.
Eva Rock.
Objets inanimés, avez-vous donc une âme?
Sur France Inter.
Cher Eric, quel est l'objet de votre chronique ce matin?
Eh bien écoutez, vous savez qu'il n'y a pas de saison hein, pour les trophées, les médailles, les prix, les récompenses, les coupes qui courent pendant toute l'année. Mais tout de même, en hiver, ça tombe comme un gravelotte, notamment en culture et au cinéma. On l'a encore vu ce week-end avec les cérémonies des Césars et celles des Oscars. Alors ça gagne, ça remercie et puis ça rentre à la maison avec un objet parfois encombrant et plus ou moins moche, mais symbole de réussite et de victoire et parfois de changement de direction pour celles et ceux qui l'obtiennent. Hein, direction pavée de meilleures intentions et d'une plus belle carrière. Cela dit, c'est amusant de noter que selon le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, il faut toujours citer Alain Rey, l'étymologie de trophée vient de tropé qui signifie justement changement de direction, mais en l'occurrence un changement de direction pour les ennemis qui prennent la fuite. Est-ce à dire qu'il existe un revers au trophée comme il existe un revers à la médaille? Là est la question à laquelle on peut répondre sans hésiter oui, car le trophée est un objet multifonction et polysémique, c'est un peu le couteau suisse de la représentation de soi. D'abord, on ne sait jamais où le mettre, cet objet. Oui. Une cuillère se range dans le tiroir de la cuisine, un livre se glisse sur l'étagère de la bibliothèque, un tableau s'accroche au mur de la salle à manger. Mais où est-ce qu'on met ce trophée qu'on vient de ramener à la maison? Faut-il l'exhiber ou le planquer? Doit-il trôner sur la table du salon ou faut-il le ranger dans un carton au fond d'un placard? L'exhiber, c'est peut-être passer pour prétentieux. Le planquer, c'est sans doute mésestimer ce dont on a été capable. Mais l'exhiber, c'est aussi affirmer que la fausse modestie est détestable. Quand le planquer, c'est assumer l'éphémère du succès. Et c'est là qu'on tombe sur un Oscar, visible ou... Oui, il a bien fallu.
Oui.
Visible ou invisible, le trophée est de toute manière très encombrant. Il faudrait l'exhiber les jours pairs, le planquer les jours impairs, l'exhiber par beau temps, le planquer quand il pleut, l'exhiber au printemps, le planquer en hiver. Remarquez que l'avantage du trophée, c'est sa signification profonde, c'est qu'il raconte parfaitement le rapport qu'on entretient avec son ego. L'ego, c'est un peu un jeu de briques. Selon les jours et les moments, l'assemblage prend plus ou moins de place, parfois l'égotique et parfois l'ego TikTok, notamment depuis l'arrivée des réseaux sociaux. D'ailleurs, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, le trophée a pris une nouvelle dimension. Il s'est transformé en nombre de vues, de pouces, de partages, des centaines, des milliers, des millions de vues, de pouces et de partages. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Eh bien non, justement, elle n'est jamais pleine. C'est un trou sans fond. Ça ne veut plus rien dire et ça follow à volo. Le succès tenait à un fil, il tient maintenant à une foule. Changement de direction d'une autre époque. Effectivement, le trophée, c'est bel et bien un tout à l'ego. Pourtant, il ne faudrait jamais l'oublier. Nous sommes poussière et sur le trophée, il tombera toujours de la poussière.
Exactement. Merci beaucoup, Éric Libéraux. Votre chronique Petite mythologie des objets est à écouter, réécouter et à partager via le site de Radio France. D'ailleurs, Marion, imaginons que vous ayez un Molière là bientôt. Vous le mettez où, le Molière? Vous l'exposez ou pas?
Alors, figurez-vous que j'étais éligible cette année au Molière du Seul en scène et je refusais l'éligibilité.
C'est vrai?
Écoutez, pourquoi pas le tenter en humour l'année prochaine? C'est encore autre chose.
C'est vrai qu'il y a deux catégories.
Il y a plein de catégories, oui. On fait des choix, c'est rigolo.
Vous nous direz où vous mettez le trophée.
Voilà, c'est un petit JO intérieur, quoi.
Grand bien vous fasse.
Et moi, qui va me demander pardon à moi? Hein? Qui va me demander pardon? Parce qu'en vérité, Pierre, tu as un peu honte de moi aussi. Ça ne te fait pas briller, hein? Cette épouse molle fagotée, qui a quand même un gros cul de 25 kilos, en plus, depuis la naissance du petit. Alors qui va me demander pardon à moi?
Sur France Inter.
Fantastique Valérie Benguigui dans le prénom et un pétage de plomb salvateur. Marion Mésadorian, je vous ai vu réagir au quart de tour. Vous le connaissez par cœur, ce monologue.
Ah bah oui, Maria Pacôme et Valérie Benguigui, c'est un peu nos deux références françaises en termes de craquage dans le cinéma français.
Mais il est fantastique, ce craquage, autant au théâtre qu'au cinéma. Elle est incroyable dans cette scène, c'est vraiment... Mais on voit toute l'énergie corporelle que ça exige, en fait. Est-ce que vous êtes épuisée quand vous sortez de scène, d'ailleurs, ou pas?
Alors, pas tant, parce qu'en fait, je commence par l'inverse. C'est-à-dire que je commence par le cri en disant « Allez, je vous donne ce que vous pensez être le craquage. » Et puis sur les 16 personnages, je décline la façon de craquer. Et en fait, ça peut être juste dire les choses. Donc en fait,
on baisse en intensité, en fait.
Dans la façon de dire... Pas forcément en intensité, mais dans la
sonore,
dans la colère.
Dire
sonore. C'est ça, sonore. Et donc je suggère des portraits que j'ai vus. Et je dis « Ça peut être aussi juste ça, craquer. Ça peut être juste dire les choses. » Et effectivement, ça me fait comme un petit massage, ce spectacle.
D'accord.
Mais c'est intense.
On va donner la parole à Marie qui vient de nous appeler au Standard de France Inter. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous avez dit les quatre vérités à une de vos grand-mères, c'est bien cela?
C'est ça, absolument.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait?
J'avais 11 ans, j'en ai 44 aujourd'hui, donc ça remonte. Hein,
ouais.
Et c'était Noël, mes deux grand-mères étaient là, l'une adorable, l'autre absolument détestable et qui régulièrement humiliait mon autre grand-mère. Et la colère est montée, petit déjeuner, mon bol de céréales devant moi, et elle, une fois de plus, cette grand-mère distribuant les bons et les mauvais points, et c'était un peu syndrome de la cafetière italienne, quoi. La colère est montée petit à petit, alors ça a plutôt donné une colère froide et des mots froids, c'était pas la Valérie Benguigui, hein, j'ai pas hurlé, mais je lui ai dit que c'était insupportable de pourrir l'ambiance, de pourrir tous nos Noëls, que personne ne disait rien pour maintenir la paix à la fac. Elle s'est retrouvée dans une situation où elle n'a pas pu donner quelques mots que ce soit. Elle a plutôt poussé des petits cris d'animal en détresse. Elle s'est levée et elle a traversé le salon prise d'une diarrhée absolument incontrôlable. Ma mère la suivant à la trace pour nettoyer un peu son passage. Elle est montée dans sa chambre, sa grand-mère. Elle y est restée quelques heures. Elle est redescendue. Il faut dire que tout le monde était un peu ahuri et sans mots. Les enfants, les parents, machin. Et quand elle est redescendue, plus personne n'a parlé de cette scène. C'est resté un peu comme un moment suspendu dans le temps. Je n'ai pas été engueulée par mes parents parce qu'au fond, je n'ai pas dit de mots qui étaient illégitimes, mais j'aurais pas dû prononcer pour autant ça. Et je me suis en tout cas sentie assez libérée.
C'est ce que j'allais vous demander.
Si en moi, un gros poids disparaissait de la poitrine, avec aussi un peu de culpabilité, mais ça a été quelque chose d'assez étrange.
C'est ce que j'allais vous demander. Donc, a priori, ce qu'on comprend, c'est que c'était salvateur pour vous. Est-ce que ça l'a été pour la famille? Est-ce que ça a un peu calmé cette méchante grand-mère?
Alors, elle était incorrigible, hein, c'est-à-dire qu'elle a continué à être détestable, mais pas ce Noël-là. Ça l'a un peu mise quelque part à part de la famille. Pour ma grand-mère, mon autre grand-mère, ça a été aussi un peu gênant, parce que ce que je disais était légitime, en même temps, je disais des propos comme si je lui, elle les avait elle-même prononcés.
Et
or,
oui.
Elle avait enduré ça jusque-là. C'était son choix à elle de supporter pour maintenir une ambiance à peu près festive.
Convenable.
Ouais, ouais, voilà.
Merci beaucoup Marie de nous avoir appelé au standard de France Inter. Merci parce que c'est extrêmement intéressant. On voit encore que ça passe par le corps. Laurent Bach-Chancland, cette question du corps, elle est déterminante pour comprendre aussi ces craquages.
Oui, évidemment, on ressent l'émotion, en tout cas de la colère, ça a été évoqué, eh bien, est associée à des paramètres sensibles. Et je pense que tout l'enjeu, c'est d'arriver à les détecter, à ressentir ce qui se passe au moment où la colère est en train de monter, et à justement se dire, ben voilà, il y a un enjeu là. Est-ce que j'ai des compétences émotionnelles pour arriver à gérer ce qui monte, qui est une opportunité, mais aussi un risque? C'est-à-dire, est-ce que je vais m'en servir pour finalement aboutir à peut-être une forme d'authenticité, ou bien de révélation, ou bien est-ce que ça va être un dérapage qui finalement n'apportera rien à la situation. Et je pense que là, toute la question là, c'est finalement celle des compétences psychosociales aussi qu'on peut développer pour pouvoir préparer à l'avenir les opportunités de craquage constructif.
Marie-Laure ?
Oui, justement, Laurent Bach-Chancland, est-ce qu'on peut dire que le fait de craquer a forcément et toujours un objectif ? Est-ce qu'on peut finalement péter les plombs mais sans raison ?
En tout cas, il y a des circonstances qui font qu'on pète les plombs. On peut analyser évidemment les aspects de la situation, les aspects qui la précèdent. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la frustration qui monte et qui peut être déclenchée par des événements antérieurs. Ensuite, évidemment, toute la question, c'est est-ce que on craque par rapport à, je dirais, un sentiment d'injustice, par rapport à un sentiment de manque de respect, ou est-ce que c'est simplement, effectivement, je dirais, une fatigue qui se manifeste de façon assez générale. L'analyse peut être très variable. Ce qui est certain, c'est que il y a là un enjeu, puisqu'il y a souvent une personne en face. Donc, je dirais, on ne craque pas tout seul dans une pièce, ou alors c'est autre chose.
Oui.
Donc là, je dirais, la question, c'est le sens par rapport à la relation et à l'histoire passée de la relation.
Marion Mézadorian, dans la famille, chez vous, chez les Mézadorian, c'est sicilien du côté de la maman, c'est ça, hein, et arménien du côté du papa. C'est-à-dire que c'est ambiance plutôt bruyante,
ah oui,
mais avec beaucoup de non-dits.
Oui, bah, c'est-à-dire on fait le bruit, hein. On envoie le son, mais par contre on ne dit pas plus les choses. Hein.
Ouais.
Le bruit permet de faire croire qu'on dit.
Ah c'est ça, ça laisse penser qu'on parle entre nous.
Ah oui, ça chante, ça parle avec les mains, ça envoie. Moi j'ai grandi près de Marseille, donc c'est vrai que c'est deux familles très méditerranéennes. Mais j'ai une anecdote qui m'est revenue, mon père m'a dit il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, assez gêné, il me dit oui, parce qu'on parlait à table et mes sœurs m'ont dit oui, est-ce que quelqu'un t'a donné une leçon un jour, est-ce que tu as appris quelque chose? Et il me dit, en fait, Marion, quand elle avait 6 ans, donc je découvre à table ce que j'avais fait, je l'avais engueulée devant toute la famille pour pendant une fête de famille. Et puis, il paraît que j'ai attendu que tout le monde parte. Et je lui ai dit, est-ce que je peux te voir dans ton bureau? J'ai convoqué mon propre père dans son bureau et je lui ai dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu me disputes devant la famille, je préfère que tu le fasses à part.
Incroyable.
Quand tout le monde est parti. Et je n'ai aucun souvenir de cette anecdote. Il l'a dit en baissant un peu la tête, mais en disant, voilà, c'est la plus grande leçon de ma vie que j'ai eue par mon enfant de 6 ans.
Mais vous venez de vous en souvenir en écoutant
oui.
Marie, notre auditrice.
Oui, oui, c'était très drôle. Je me suis souvenue de ça parce que c'est vrai que, effectivement, j'aime pas l'humiliation. Enfin, qui aime ça, hein? Personne.
Oui, oui.
Moi, ça me tue et je trouve ça très triste. Et de manière générale, c'est vrai que quand je vois de l'injustice, j'ai tendance à prendre un peu la défense d'une manière ou d'une autre. Et puis, ça devait venir de loin déjà.
Mais oui,
je me suis souvenue de ça.
Mais c'est incroyable. Alors, je ne veux pas tout dévoiler sur le spectacle, mais il est question de votre grand-mère, alors, du côté de votre papa, hein, de la famille arménienne. Pour moi, enfin, franchement, je vous le dis, c'était la fin du spectacle. Moi, j'ai fini en larmes parce que j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Parce que vous racontez à quel point, finalement, il est important de parler, de raconter son histoire pour ne pas laisser la place d'abord au regret, mais surtout à l'oubli. Donc il y a un côté catharsis pour vous à revenir sur l'histoire de votre famille dans ce spectacle ?
Oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ma grand-mère m'a avoué, il n'y a pas si longtemps, l'histoire du génocide arménien dans notre famille. Comment ça s'est passé sur les 3 dernières générations ? Et en fait, oui, il y a un fameux tabou, comme je disais, où en fait, il vaut mieux se taire et continuer pour ne pas recontacter la douleur. On a réussi à s'intégrer en France, on est arrivé, travaillons maintenant. On se tait, on continue d'avancer. On ne va pas remuer ce qui est douloureux. Mais quand même, ça vaut peut-être le coup de le dire, parce qu'en fait, c'est toujours d'actu. Donc, et si on en parlait ? Donc moi, j'ai un peu chatouillé, on va dire, ma grand-mère sur certaines thématiques. Mon père est dans le silence là-dessus, parce qu'il fait partie de la génération de on est arrivé, on travaille et on perd pas d'énergie là-dessus. Et moi, je suis la génération qui dit, excusez-moi, je crois que ça recommence. Donc, est-ce que vous pouvez juste me dire ce qui s'est passé les années d'avant pour savoir si nous, on peut avoir des mots en plus pour ne pas que ça se reproduise encore.
Laurent Beck-Chankland, ces non-dits ou cette difficulté à parler, elle peut conduire à créer, à transmettre des secrets de famille. Et c'est parfois dramatique.
Alors c'est difficile évidemment de savoir comment ça fonctionne, ces transmissions, mais ce qui est certain, c'est qu'évidemment des éléments qui sont retenus, qui ne sont pas clarifiés, qui sont des sources de frustration partagées, eh bien forcément exposent à des risques de craquage par la suite. Craquage qui évidemment auront des conséquences. Alors des conséquences parfois difficiles, parfois positives. Il y avait par exemple une étude qui a été faite sur 750 personnes qui consistait justement à étudier comment les auteurs de craquage évaluaient ce qui s'était passé. Et bien finalement, une personne sur deux mettait en avant les aspects positifs qui avaient résulté de cet épisode dans la relation. Et puis à peu près un tiers évoquait qu'elles avaient appris des choses sur elles-mêmes. Donc je pense qu'évidemment, on peut s'en servir aussi pour progresser, pour évoluer. C'est des événements de vie qui finalement peuvent être utilisés pour comprendre ce qui se passe dans nos relations au quotidien.
Marion Mézadorian, je me suis demandé, est-ce que tous ces craquages, au fond, ne sont pas avant tout une façon de se sentir en vie ?
Oh oui, c'est ça, c'est une façon de ne pas mourir, d'enfin dire ce qu'on pense. C'est une façon de dire, bon, je suis là et je ne veux pas avoir de regrets. C'est pas possible. Je ne peux pas vivre une seconde de plus en ayant encore ce non-dit-là, ce poids-là qui, je pense, ne m'appartient pas, ne m'appartient plus, j'en ai marre. Et donc, on remet un peu les compteurs à zéro, quoi. Mais après, effectivement, il faut négocier avec sa culpabilité et de ce qu'on laisse aux autres.
Merci infiniment, en tout cas, à vous tous d'avoir participé à cette émission. Éric Libiot et Marie-Laure Zonshine, merci et à bientôt, évidemment. Laurent Beck-Chankland, je conseille vivement la lecture de votre ouvrage « Psychologie du bien et du mal ». C'est paru chez Odile Jacob. Sébastien Boller, le dernier numéro de Cerveau et Psycho, est en kiosque avec un dossier sur le thème de comment faire les bons choix. Marion Mézadorian, est-ce que j'ai besoin de répéter qu'il faut venir vous voir au studio des Champs-Élysées? Vous jouez les jeudis, vendredis et samedis, c'est à 19h. Et puis vous serez bientôt en tournée. On était ravis de vous recevoir
ce matin.
Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je vous précise qu'il ne vous reste plus que quelques jours si vous souhaitez intégrer le jury du Livre Inter. Vous avez jusqu'au lundi 10 mars minuit deux manières de vous inscrire, soit en allant sur le site de France Inter, soit par courrier à Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16. La présidente du jury cette année, c'est Marie-Hélène Lafont. Eva Bétan, elle reçoit 2000 lettres et elle les lit toutes avant de choisir 24 jurés, soit 12 hommes et 12 femmes.
Rendez-vous face. Podcast France Inter.